Bonjour à tous. Alors, je l'ai précisé, je suis plutôt un spécialiste de la technologie et je vais essayer d'examiner les coexistences des sciences expérimentales et de la technologie avec un double point de vue, un point de vue historique et un point de vue curriculaire. Curriculaire, ça veut dire que c'est un point de vue qui porte à la fois sur les contenus, mais également sur la configuration d'ensemble. Alors, dans une certaine mesure, je vais prendre un chemin qui va d'aujourd'hui à hier pour réinterroger ce que sont les disciplines et peut-être revoir ce que pourraient être des matières, en interrogeant également le flou ou la distinction entre contenu et savoir, puisque un certain nombre de préoccupations actuellement, comme un prochain colloque de didactique comparée, réinterrogent les contenus par rapport au savoir, repasser du désordre à l'ordre, si tant est que ce soit actuellement un désordre, hein, je pense que ça vaut aussi pour l'aujourd'hui ou pour le hier, et puis enfin, ceci doit nous permettre de penser d'aujourd'hui à demain. En quelque sorte, je voudrais démonter un peu la configuration actuelle et pour essayer de voir comment, quels sont les leviers possibles. Alors, je vais rappeler sans doute un certain nombre de choses que vous connaissez, bien évidemment, en particulier au niveau du contexte. Je n'apprends rien à personne en évoquant le contexte particulier depuis la loi de 2005, avec le socle commun de connaissances et de compétences, dont il faudra reparler sans doute sur la désignation même de ces connaissances et de ces compétences qui sont déclinées dans les programmes en connaissances et capacités. Donc on voit bien un certain nombre de flous lexicaux et sémantiques qui sont sans doute ou qui traduisent en tout cas des hésitations. Et avec les sept piliers comme les couleurs de l'arc-en-ciel qui donnent une teneur à l'ensemble, mais qui croisent en fait un certain nombre de parcours et un rassemblement des mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, des sciences physiques et de la technologie. J'ai mis un S à technologie, mais il a changé de signe parce que parfois on ne sait jamais si c'est au singulier ou au pluriel, et l'usage fait que aujourd'hui ça devient au pluriel parce que on confond un peu les technologies RFID ou flash code avec l'étiquette d'une discipline. Donc on voit bien des évolutions majeures. Donc en fait, il y a une configuration disciplinaire que je voudrais discuter et permettre un peu d'analyser. Il y a un contexte aussi très particulier, un contexte qui donne des tendances, la main à la pâte à l'école, qui décloisonne par hypothèse et qui normalise la démarche d'investigation, ou en tout cas c'est là où c'est parti. L'enseignement intégré des sciences et de la technologie au collège, dans la lignée du Prest et d'autres manifestations, et également des innovations au lycée, Sciences Plus, et des innovations internationales très fortes, STEM par exemple, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Engineering étant pris non pas au sens de génie technique, mais au sens de formation plutôt professionnelle, et puis bien sûr, les orientations européennes de l'Inquiry-Based Science Education. Donc on a un contexte, en fait, à la fois international, national, européen, qui fait qu'il faut intégrer et qu'il faut décloisonner en quelque sorte. Donc c'est peut-être une sorte de fatalité, mais il semble que ça n'aille pas aussi bien que ça n'aille pas de soi. Alors, les symptômes, par exemple, et du point de vue de la technologie, c'est que dans le président du dernier groupe d'experts s'exclamait que la technologie devient une discipline d'acquisition de connaissances. Donc, en 2006, ça veut dire que ça n'était pas une discipline de connaissances. Mais en même temps, ça veut dire que ce n'est pas une discipline de compétences, puisqu'on met le primat sur les connaissances. Donc c'est quand même difficile à articuler un socle commun de connaissances et de compétences quand on se définit comme une discipline d'acquisition de connaissances. Je joue volontairement sur ces multiples, enfin sur ces mots qui conditionnent. Et en même temps, Quelques membres des corps d'inspection signalaient qu'enfin la technologie allait devenir ou revenir au panthéon des disciplines, ce qui signifierait que les disciplines sont essentiellement des disciplines de connaissance. Et on voit effectivement apparaître dès le collège, dès les classes de 6e aujourd'hui, cette traduction ou ce modèle d'analyse des systèmes pluritechniques en chaîne d'information et en chaîne d'énergie interconnectées et qui s'apprennent d'une façon analytique, puisque on va dans les petites classes commencer par chaîne d'énergie ou chaîne d'information, et puis progressivement on va essayer de bloquer et de rassembler. Mais on voit tout de suite un problème qui apparaît, c'est que j'ai représenté deux illustrations extraites de même manuel, certes pour la formation des professeurs des écoles, où l'on a une chaîne d'énergie et on a une chaîne énergétique, et j'ai l'impression que ça ne se superpose pas bien, à la fois dans le vocabulaire, dans les concepts, mais également dans les graphismes. Puisque d'un côté, dans ce qui est isolé par des rectangles, on a des fonctions, et dans l'autre, on a des organes. Enfin, alors, il y en a, c'est des rectangles, d'autres, ce sont des ovales, mais on voit bien que là, le dialogue entre les disciplines pose quand même un petit problème, semble-t-il, dans la mesure où les points de vue sont très différents, puisque, dans une certaine mesure, le premier schéma supérieur évoque la conversion, les conversions d'énergie, mais du point de vue fonctionnel, puisqu'il s'agit en vérité de déterminer les solutions techniques qui vont assurer ces fonctions. Dans le schéma du bas, ce qui est en jeu, c'est la conversion d'énergie et les transformations d'énergie qui visent en fait une élaboration notionnelle de ce qu'est l'énergie avec ses transformations, puisque le concept même d'énergie est le plus facilement appropriable par ce biais de ces transformations. Alors, il me semble que le problème de l'enseignement intégré des sciences et technologies se pose dans ces termes-là, aujourd'hui, dans ces dialogues et dans ces frontières entre les disciplines elles-mêmes. Alors, j'ai indiqué cette vue-là essentiellement pour positionner, je ne reviendrai pas à d'autres situations. Ce que je voudrais, c'est essayer d'examiner le comment, le pourquoi, on a ces écarts qui sont des oppositions épistémologiques qui ne peuvent pas, en quelque sorte, s'intégrer, puisque si elles s'intègrent, alors leur point de vue épistémologique serait dénaturé et les enjeux éducatifs qui les accompagnent le seraient également. Donc ça pose la question des limites de l'intégration que nous aurons l'occasion de reprendre. Alors, pour examiner un peu ces configurations, j'utilise un outil d'analyse qui essaie de repérer, en fait, les tâches des élèves, c'est-à-dire ce qu'ils ont à faire, avec leur orientation, c'est-à-dire leur visée, et leur signification par rapport aux références qu'elles évoquent. Les tâches, les visées, les références, nous pourrions d'ailleurs remplacer tâches par contenu, je pense que ça aurait une portée bien plus large, c'est-à-dire quels sont les enjeux, les ambitions des contenus, mais surtout quelles sont leurs références et quelle cohérence y a-t-il entre ces trois pôles. Le tout, bien évidemment, est inscrit dans un milieu scolaire et qui est un milieu scolaire humain et social avec ses tensions, et le tout intégré bien sûr dans une institution particulière qui est dont les fonctions évoluent également. Et la petite flèche qui pointe le milieu scolaire, là, en fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui est évolutif dans le temps, puisque on va avoir une continuité au fil du temps. Un enseignement ou une discipline ne peut exister en quelque sorte que s'il y a continuité et développement temporel. Sinon, ce sont des opérations ou des actions qui n'ont pas une pérennité très grande, comme ce fut le cas pour l'enseignement anti-alcoolique à l'école primaire et primaire supérieure en 1897, par exemple. Ce schéma permet de poser deux questions majeures. La question, une question politique et une question institutionnelle, sur les missions, les fonctions ou les mandats des enseignements. C'est un point de vue, alors là, de technologue, qui se dit, mais à quoi servent ces organes que sont les disciplines? À quoi ça sert? Pourquoi a-t-on besoin qu'elles existent dans un plan d'études ou dans un curriculum? Alors, Martinan propose la notion de mission. Antoine Léon proposait plutôt la notion de fonction. Et Roger-François Gauthier propose plutôt l'idée de mandat éducatif. Je crois qu'il y a différents niveaux de préoccupation. Au XIXe siècle, pourquoi le travail manuel devait-il être intégré à l'école? Pour former l'armée industrielle aux bras intelligents, comme disait l'inspecteur général. Donc là, il s'agit d'une mission politique, c'est-à-dire qu'on dédie à une discipline une responsabilité, en quelque sorte, qui la légitime. Mais on signalait également que le travail manuel était nécessaire pour apporter à l'emploi du temps l'élasticité nécessaire pour permettre aux élèves de se distraire, en quelque sorte. Et là, on est davantage dans une fonction scolaire. Et puis, on disait également que c'était pour apporter le concret aux mathématiques, et en particulier à la géométrie. Et là, on est plutôt également dans des fonctions ou dans des mandats éducatifs. Donc, en fait, il y a trois questions majeures du point de vue plus sociologique, et du point de vue institutionnel, mais à quoi ça sert? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui, en quatrième, des SVT, de la physique et de la technologie? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre configuration? C'est la question qui se pose en sixième, ou dans le cycle d'observation, qui s'est posée autrefois, où on avait, par exemple, inventé les travaux scientifiques expérimentaux, qui avaient une fonction très particulière. Le deuxième ensemble de questions, c'est celle que j'ai exprimée précédemment, c'est-à-dire quel est le sens des choix programmatiques et des contenus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'est-ce que les élèves ont à apprendre, comment ils ont à l'apprendre, quels sont les enjeux et quelles sont les références. Alors, des coexistences, il y en a déjà eu. Alors, je vais prendre un exemple assez simple que je connais bien. C'est la coexistence de trois enseignements à la même époque, des travaux manuels éducatifs, de la technologie et du travail manuel. C'est-à-dire, en même temps, il y avait une différenciation qui portait à la fois sur les références, à la fois sur les visées, à la fois sur les tâches. Puisqu'ici, il s'agissait plutôt d'aspects d'une technologie ou d'un travail manuel professionnel, donc avec des visées très particulières de professionnalisation. Ici, c'était l'analyse de mécanismes dans les années... tout ça, c'est en parallèle, hein, en 1962, par exemple, où il s'agissait, en fait, d'initier l'analyse fonctionnelle. Et puis, là, l'illustration convient pas trop, mais c'est du pliage de papier, ici, qui, en fait, contribue à faire de la géométrie expérimentale. Donc, en fait, on a une coexistence. La coexistence exige une différenciation. Cette différenciation se fait à la fois sur les visées, à la fois sur les références et bien évidemment sur les contenus ou sur les tâches. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de différence, il n'y a aucune raison qu'il y ait une coexistence, puisque dans ce cas-là, il vaut mieux une intégration. Ce que je veux dire par là aussi, ou le point que je voulais rajouter là-dessus, c'est que les coexistences sont délicates. Les coexistences sont très délicates. Et je vais reprendre un exemple historique que je connais bien. C'est le travail manuel, la géométrie et le dessin. En gros, en 1892, on installe des tableaux de concordance avec ceux qui s'enseignent en travail manuel, ceux qui s'enseignent en géométrie et ceux qui s'enseignent en dessin. Et donc, on fait coexister et on assemble quelque chose comme ça. Mais ça génère quelques rivalités que l'on peut supposer puisqu'il y a un pilote dans un groupe comme ça. Et le pilote, là, ce furent plutôt les aspects scientifiques de la géométrie. Et il y a en quelque sorte une dépendance, c'est-à-dire quand la coexistence se joue par une relation de supériorité et donc d'infériorité et de dépendance, certains enseignements sont au service d'autres. Ça, c'est le cas partout, dans toutes les situations. Alors, cette différenciation ou ces distinctions, elles se situent à plein d'endroits. Elles se situent au niveau des enjeux, que ce soit les missions, les mandats ou les fonctions, mais également les visées. Elles se jouent en termes d'identité disciplinaire. C'est pas tout à fait la même chose pour un enseignant de STI d'aborder l'énergie qu'un enseignant de physique. On le voit également avec les travaux de Pascal Hanoun sur la distinction de la mécanique dans les classes SSI, sciences de l'ingénieur, où les uns abordent la mécanique du point et les autres la mécanique du solide. Et donc il y a des espèces de confusions extrêmement délicates autour de ces identités disciplinaires. Les connaissances ne sont pas les mêmes, ou ne sont pas tout à fait les mêmes, bien qu'on dise qu'il y a l'unité parmi la diversité des sciences. Un aspect épistémologique également, puisque l'origine historique des connaissances n'est pas fondée du tout de la même façon. Si on examine l'histoire des techniques et l'histoire des sciences, l'idée de tolérance, par exemple, en termes de métrologie, est quelque chose qui est relativement différent de la notion d'incertitude qui apparaît dans les mesures. Un point également extrêmement important, c'est l'organisation administrative et pédagogique de chaque discipline. Une discipline, c'est pas simplement un point de vue épistémologique, c'est surtout une organisation sociale et une organisation administrative et pédagogique. Les membres des corps d'inspection, qui nous font l'honneur d'être présents, représentent des disciplines et généralement les défendent. Les différenciations ou les distinctions se font en termes d'équipement. Il est relativement facile d'examiner des disciplines essentiellement à partir des guides d'équipement. C'est pas la peine de regarder le programme, les guides d'équipement renseignent davantage, mais également des supports pédagogiques, les méthodologies d'enseignement, et aussi un point extrêmement important, ce sont les publics scolaires. Il y a des disciplines qui sont plutôt dévolues à certains publics scolaires et d'autres plutôt à d'autres. Je travaille actuellement sur l'enseignement ménager. Ça fait fou. Ça appelle des souvenirs qui vous font sourire. Habituellement, c'était plus amer. Aucun souvenir. C'est normal puisque c'était adressé uniquement aux jeunes filles de 14 à 17 ans de milieux populaires. Donc ça veut dire que vous étiez riche. Non, oui, je fais des généralisations hâtives là. C'est vrai que ça se finit en 1975. Non, mais c'était une flatterie. Bien. Donc, ces enseignements-là sont essentiellement dévolus à l'enseignement primaire et à l'enseignement technique et professionnel et surtout pas à l'enseignement secondaire qui n'en veut pas. Et le CAP d'art ménager, que vous n'avez donc pas eu, qui est institué en 1945, convient très précisément aux femmes laborieuses. Aujourd'hui encore, il y a des disciplines ou des enseignements qui correspondent à des publics différents. Alors ce sont des dispositifs aujourd'hui, mais la découverte professionnelle, par exemple, est plutôt dévolue à certains publics et qui se distingue d'autres enseignements. Donc c'est un critère qui est important. Alors, cette genèse, et je vais, c'est là où je souhaiterais arriver, c'est que je voudrais montrer ou rappeler en tout cas la construction J'ai les 203. Si, c'est reparti. Ah, ben, c'est merveilleux. Je voudrais revenir à la construction du système éducatif, parce que la thèse que je soutiens aujourd'hui, c'est que si l'on veut intégrer ou penser l'intégration, alors il y a plein de choses à déconstruire. Et sans doute y a-t-il à déconstruire ce qui a été construit depuis 1960. Et en termes de repères, je pense qu'il est extrêmement important de bien saisir que lors de la construction du système éducatif, c'est surtout l'enjeu majeur et l'insertion de l'enseignement technique. J'y reviendrai. Je développerai également le processus de disciplinarisation qui s'opère d'une façon schématique de 1960 à 1980, fin des années 80, puis ce système qui est ébranlé à partir du début des années 90. Et avec la notion de spécialisation, puisque, en tout cas c'était une des orientations de recherche de l'UMR-STEF, qui était de travailler sur les spécialités enseignantes, et justement d'essayer d'examiner les frontières, la porosité entre les conduites professionnelles. Et puis j'aborderai l'organisation curriculaire, c'est-à-dire la hiérarchisation des enseignements et leur répartition. Alors, comme je le disais, pour tout comprendre, il faut revenir au début des années 60 avec la modernité. Alors certains ont peut-être vu ces images, puisque je les ai présentées à l'ouverture de Steam en septembre, je crois. C'est Spoutnik. Spoutnik, c'est vraiment l'événement qui est à rapprocher de la conjoncture contemporaine, où on s'aperçoit, un, des prouesses possibles des sciences et des techniques, deux, qu'il y a peut-être des ennemis sur la planète. Des ennemis en termes de potentiel économique. Et si je dis cela, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près dans la même configuration. C'est-à-dire, on voit le développement d'un certain nombre de pays comme la Chine, qui menace en quelque sorte la stabilité économique des pays d'Europe en particulier, mais des États-Unis également. Et donc, il faut s'adapter, il faut rénover l'enseignement. Et on n'est plus à l'échelle de l'atome, comme ce fut le cas autrefois, on est à l'échelle des nanoparticules, qui représentent également l'esprit du temps. Alors, pour que vous ayez tous les éléments en tête, à cette époque-là, l'école obligatoire est jusqu'à 14 ans. Elle va devenir obligatoire jusqu'à 16 ans, en 1959, mais en réalité, pour les élèves qui ont 7 ans, donc c'est une affaire qui va se prolonger jusqu'au début des années 70. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu? Il y a des leçons de choses. Et des leçons de choses qui sont plutôt orientées SVT. Et puis, en 1952, il y a le bac M'. C'est des repères comme ça qui sont pas très importants, mais c'est pour situer les choses. Donc en gros, on a à l'école élémentaire des sciences de la vie et de la terre, les leçons de choses, on regarde les productions de la nature, les animaux, ce qui correspond aussi au milieu de vie. Et en 1952, il y a le bac M' qui s'installe. Le bac M' est déterminant puisqu'en fait, il va assurer l'ancrage des SVT en lycée. Et dans une certaine mesure, dans les cours complémentaires, eh bien, il y a des sciences qui sont des sciences de la vie et de la terre. Alors, ça s'appelle pas comme ça, hein, mais en gros, c'est plutôt ça. Dans l'enseignement, donc dans tout l'enseignement post-scolaire obligatoire, c'est-à-dire les cours complémentaires, on a un peu ce schéma-là. Il y a de la physique aussi, mais beaucoup moins, et ça peine. En même temps, en physique, il y en a au lycée. Et il n'y en a pas trop avant. Et ce que je vais montrer, c'est que les années 60 vont être un terrain de lutte pour s'emparer de l'emploi du temps, de l'école moyenne et du collège. Je ne parle pas pour l'instant de de technique, puisque sous Spoutnik, on y pense à peine, et on a simplement l'organisation de l'enseignement technique, bien sûr, avec la mise en place des structures de l'enseignement technique, mais ce qui est visé, on est encore au stade, je dirais, du geste. Alors, autre élément important, c'est cette modernité, avec ces quatre mots magiques, énergie nucléaire, automation, matière plastique, qui sont vraiment les trois éléments forts et qui bousculent. C'est Saclay, c'est un certain nombre d'événements. J'aime bien ces repères, le poinçonneur des lilas, c'est vraiment l'automation qui se met en route et qui va générer, en quelque sorte, le besoin d'une technologie et d'enseignement technologique. Et puis, le monde change. Le monde change avec, j'ai pris quatre échantillons, les choses de Pérec, c'est-à-dire c'est le début de la consommation. Mon oncle, c'est l'automation à outrance et l'asservissement de l'homme à la machine. Et Dieu créa la femme, c'est la fin de l'enseignement ménager. Et salut les copains, c'est l'idole des jeunes. Et donc l'adolescence se scolarise en quelque sorte. Et avec la centration sur trois mots, loisirs, personne et univers, donc on change en fait d'échelle, on change de regard. Alors ça va pas se faire comme ça d'une façon brutale, ça va être un processus relativement long, mais tout devient moderne. La ménagère est moderne, la fermière est moderne, les mathématiques sont modernes et les lettres deviennent modernes. Donc tout devient moderne. Et même, il va y avoir des classes modernes. Et ça se fait rapidement, ça se fait très vite, puisque on fait de la pub pour les préfabriqués qui sont construits en 2 mois, et à raison d'un par jour, donc on voit l'explosion scolaire, qui est un enjeu très fort, avec encore quelques passages obligés, notamment l'examen d'entrée en 6e, et quelques appareils technologiques qui vont modifier la trousse des écoliers, bien évidemment. Et on a la constitution progressive d'un système éducatif. Système éducatif, ça veut dire qu'on intègre l'enseignement primaire, l'enseignement technique, dans l'enseignement secondaire. Et ça, c'est une décision politique, qui est un choix, après de nombreuses difficultés, de nombreuses tensions d'ordre politique, puisque les organisations syndicales plaident entre la prolongation d'un enseignement primaire qu'assuraient les cours complémentaires en particulier, ou bien, en quelque sorte, l'absorption dans l'enseignement secondaire des enfants. Et ce choix politique en 1963, est extrêmement important, puisque dans une certaine mesure, il fixe le format scolaire des enseignements, c'est-à-dire des disciplines de l'enseignement secondaire. Et si on avait imaginé, à cette époque-là, une structure école primaire, enseignement primaire ou degré primaire, alors les problèmes contemporains d'intégration seraient complètement différents, puisque nous aurions, par exemple, des facultés d'éducation, sans doute, qui auraient formé des gens qui enseigneraient à l'école ou dans le premier degré, avec cette formation multi ou pluridisciplinaire, d'une façon importante. Si j'ai retenu cette image, c'est qu'on voit le parcours linéaire de l'école maternelle à l'école élémentaire, à l'école moyenne et au lycée. Et il y a cet élève avec un bonnet d'âne. Ce qui veut dire qu'il y a généralisation. Et donc il ne va plus y avoir trop de sélection, on va arriver. En même temps, il manque énormément de choses, c'est-à-dire qu'il manque toutes les soupapes qui permettent la régulation du système, c'est-à-dire un certain nombre d'enseignements qui sont à la périphérie de ce chemin qui mène à l'université. Donc il s'agit d'une véritable rupture, et c'est vrai qu'en tant qu'universitaire, ça fait mieux de citer le prix Renaudot 1956 de Pérec. Mais l'école est faite pour la masse. Et ça devient une école de masse à cette époque-là. D'où ce choix. C'est-à-dire que les petites filles ont encore à cette époque-là des tabliers roses, enfin Vichy rose, les garçons en nylon bleu, et le rimmel est interdit par les chefs d'établissement. Donc c'est ça, l'école est finie. Ce que je dans cette école est finie, c'est également la structuration de l'enseignement technique, puisque l'enseignement technique, il avait sa direction de l'enseignement technique, son petit ministère à lui en quelque sorte, avec un verticalisme fondateur, en gros, qui prévoyait la préparation ou la formation des ouvriers, des agents de maîtrise, puis des ingénieurs, l'école nationale des arts et métiers étant le sommet, avec la concurrence progressive de l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Mais on avait un verticalisme. À partir du moment où on choisit l'enseignement secondaire comme modèle, fatalement, l'enseignement technique devient la voie de relégation. La voie de relégation qui conduit, en quelque sorte, à absorber les enfants qui ne peuvent pas s'incorporer dans l'enseignement secondaire. Et fatalement, il y en a beaucoup. C'est tous ceux qui allaient auparavant en classe de fin d'études. Et il y en a à peu près entre 40% et 20%. Et en 1972, on programme 20% d'enfants qui ont besoin d'être accueillis ailleurs. Et vous voyez qu'on est toujours sur les 20% qui n'auront pas le niveau bac des orientations de chevènement. Donc il y a un élève sur 5, en gros, qui n'arrive pas à rentrer là-dedans, dans ce système. Alors, au-delà de cette référence culturelle qui a choqué mon ami Bernard, mais bon, chacun les siennes, hein. Je ne pensais pas à ces émotions de Proust, hein. Ça te rappelle tes premières boums, etc. Donc, bien. Donc, c'est la prolongation de la scolarité et l'orientation des élèves dans une perspective de démocratisation de l'école qui est très forte et annoncée dès la Libération, avec une ségrégation des voix et une diversité des intelligences, et avec une attribution des contenus et des rôles sociaux pour les garçons et les filles qui va durer jusqu'au début des années 70. Et à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, c'est relativement simple. On pense, sans choquer, aujourd'hui ça choquerait, qu'il y a des forts, des moyens et des faibles. Et comme le dit Capel qui est l'équivalent du DGESCO aujourd'hui, il dit qu'il ne faut pas donner la même alimentation au même rythme pour cela. Et c'est typiquement le projet Nordwound de Grande-Bretagne, où ils considèrent, où ils évoquent qu'il y a trois types d'enfants, trois types d'élèves, pupils, des élèves qui apprennent pour le plaisir d'apprendre, des élèves qui ont besoin de trouver du sens à ce qu'ils font, et des élèves qui sont un peu plus concrets, comme dira Piaget un peu plus tard. Donc en gros, on a les enfants de la filière classique, les enfants de la filière moderne, et les enfants des classes de transition et des classes pratiques qui vont être, en quelque sorte, la voie de relégation progressive. Et dans une certaine mesure, on a la voie classique, qui est la voie qui mène au lycée et qui mènerait aux grandes écoles, la voie moderne, qui mène plutôt aux filières longues mais courtes, c'est-à-dire les IUT et les BTS de l'enseignement technologique, et puis les autres, qui participent de la formation de la main-d'œuvre. Et là-dedans, les sciences et les techniques s'insèrent. Il y a, je le répète pour récapituler, cette construction du système éducatif, la rénovation des enseignements dans un contexte international. Il faut former des scientifiques et des techniciens. Il faut être en adéquation avec les nouveaux publics, en particulier comme on accueille des enfants qui jusqu'alors n'étaient pas scolarisés ou n'étaient plus scolarisés. On va devoir stigmatiser les méthodes actives. Et c'est l'enseignement technique en particulier, qui va valoriser les méthodes actives pour diverses raisons, en particulier idéologiques, parce qu'ils sont soutenus, ils sont fortement inspirés dès la Libération par les courants de l'école nouvelle et de l'école unique et d'obédience communiste. Et c'est eux qui vont valoriser ces méthodes actives et cette pédagogie active de l'action pour apprendre. Et ça, ça n'est pas de la pédagogie de l'enseignement secondaire. Il faut donc cette adéquation au nouveau public. Il faut prendre en charge la modernité. Alors, les manuels de l'époque injectent les nouveaux contenus, les matières plastiques en particulier, qui deviennent des contenus de familiarisation. Mais en même temps, il y a contestation des enseignements. Il y a contestation des enseignements dans leur objet. En particulier, les leçons de choses sont critiquées parce qu'il s'agit de monographies. En gros, ce qu'on n'a jamais réussi à faire en France depuis le 19e siècle, c'est à rendre les élèves intellectuellement actifs. Que quand on parcourt la littérature depuis plus d'un siècle, c'est toujours le leitmotiv. Comment rendre les élèves intellectuellement actifs ? Et on critique les leçons de choses parce qu'elles deviennent des monographies. On écrit des résumés, on apprend des mots, mais on ne réfléchit pas scientifiquement, on n'expérimente pas. Même chose dans l'enseignement technique, la formation au geste se confond avec un dressage industriel. Et ça ne va pas. À l'école, on doit réfléchir, on doit être intellectuellement actif. Et ça corrobore des évolutions majeures, en particulier les sciences de l'éducation, qui apparaissent en 1967. Et donc on a toute une configuration qui légitime en fait un certain nombre d'orientations. Et vous voyez que la main à la pâte existe déjà dans une revue de 1960 où il faut bien que les enfants soient actifs. Là, il s'agit quand même d'activités qui sont plutôt de réalisation modeste et qui n'ont sans doute pas le caractère expérimental, mais ça fait partie des souvenirs. Et peut-être cette étiquette-là n'a pas été déposée en ces termes. Mais ce qui est en jeu, pourquoi a-t-on besoin des méthodes actives ? On en a besoin pour que ça corresponde aux élèves, mais surtout, dans l'esprit de la démocratisation, pour repérer, observer les aptitudes des élèves, pour les orienter selon l'organisation tripartite que j'ai évoquée. C'est-à-dire, à cette époque-là, on ne peut pas orienter les enfants en fonction de la géographie ou des professions des parents, dans la perspective de démocratie. Donc, il faut trouver des critères objectifs. Et donc, on va mettre en place les méthodes actives pour faciliter l'orientation. Les profs, au début des années 60, en fait, ont des grilles d'observation où on repère les aptitudes. Et en fonction du bilan, les enfants vont être orientés selon la voie 1, la voie 2, la voie 3, avec des destins scolaires fortement différents. Ces ruptures que j'ai signalées, elles amènent d'énormes résistances. Alors j'ai choisi cette illustration-là parce que le stylo Bic, je crois que ça a fait couler beaucoup d'encre, c'est le cas de le dire, parce que personne n'en voulait. Donc, dès qu'il y a rupture, il y a résistance. C'est pas la peine de lire le texte, hein, c'est simplement... Il y a eu des circulaires quand même pour autoriser. Hein. La première circulaire, c'est 1957. Se déchaînent dans la revue L'Éducation nationale les contradicteurs. Hein. Ils disent, non, c'est pas possible, les enfants écrire mal, ce qui est pas vrai, enfin, ce qui est pas faux aujourd'hui, on peut tout en dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'il y a innovation, dès qu'il y a rupture, il y a des résistances. Des résistances très fortes que l'on rencontre. Demain on parlera sans doute. Le dernier rapport de l'inspection générale relative à l'enseignement intégré montre bien que ça n'est pas si simple. Donc c'est en jeu. Alors, il y a des innovations majeures sur les contenus. 1960, on invente les travaux scientifiques expérimentaux. Les travaux scientifiques expérimentaux, c'est génial. Il n'y a pas de programme. L'enjeu est uniquement de faire vivre la démarche expérimentale aux enfants. Ça me rappelle quelque chose. Il y a un très bon article dans une revue Aster, dans un numéro récent, sur l'histoire de ces travaux scientifiques expérimentaux. Et il y a deux thèmes qui sont prescrits. Alors, il y a les thèmes études du milieu, et puis les thèmes physico-mathématiques. Les thèmes études du milieu doivent être pris en charge plutôt par la géographie et les SVT. Et les thèmes physico-mathématiques doivent être plutôt pris en charge par les sciences physiques, les mathématiques, ça se porte bien son nom, et puis les travaux manuels éducatifs. Alors, à titre d'exemple, parce que les instructions relatives à cela disent, il faut que toujours il y ait un peu de maths là-dedans. Alors, par exemple, les enfants récoltent des moules, et ils mesurent les coques des moules, et puis je savais pas qu'il y avait des moules droites et des moules gauches, vous êtes plus qualifiés que moi, sans doute, Des valves, oui, pardon. Vous voyez, c'est ça l'intégration, les valves. Donc il y a des valves droites et des valves gauches, et puis des longueurs différentes. Donc imaginez que les enfants ont recueilli plein de moules, avec deux valves, et ils ont des analyses à faire sur les conditions de vie de ces moules, et puis une étude statistique de la population et de sa taille, et avec des prélèvements éventuellement différents. Un autre exemple, celui-là qui est le plus valorisé, c'est des expériences de chromatographie, en quelque sorte, à partir de l'encre, et donc de buvard, et avec la distinction qui apparaît, et les élèves doivent examiner ça. Il y a une innovation et une créativité pédagogique extraordinaire dans ces travaux scientifiques expérimentaux. Mais sur ces deux thèmes, c'est extrêmement important, puisque on a, je vous l'ai dit, géographie SVT, et puis physique mathématique, en quelque sorte, qui apparaît. Et autour de physique et mathématiques, il apparaît également l'étude de mécanismes, le démontage de choses, d'objets, pour examiner le fonctionnement, et vous voyez peut-être venir le N1Z1 égale N2Z2 du rapport de transmission dans un engrenage, ou dans un train d'engrenage. Et progressivement, ces travaux scientifiques expérimentaux deviennent exclusivement des travaux sur le thème physico-mathématique. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va devenir la propédeutique, en quelque sorte, la propédeutique de la technologie qui est essayée en 1962 et qui est centrée sur l'analyse de mécanismes. Donc, on voit bien qu'on a quelque chose qui commence à se formaliser du point de vue vertical, c'est-à-dire en 6e, 5e, on fait des petits exercices ou des activités de type expérimental sur des mécanismes qui amènent des notions mathématiques et des notions scientifiques. Et puis, on va aborder ou on va prolonger ce SLI en quatrième, moderne essentiellement. Puis vous voyez qu'en 1963, il y a un truc bizarre, c'est qu'il apparaît en même temps des programmes de physique-technologie pour la classe de troisième. Donc vous voyez, on installe en quatrième la technologie en 1962, les enfants passent en troisième en 1963, et là, il y a des programmes de physique-technologie. On voit bien qu'il y a des rapports de force très forts qui vont s'installer, bien sûr avec de l'économie domestique pour les filles, puisqu'il faut que l'on remplace en quelque sorte l'analyse de certains objets par les genres qui les accompagnent. C'est ainsi que la poinçonneuse d'établi pour les garçons se transforme en dénoyauteur à cerises pour les filles, puisque le schéma fonctionnel est le même. Donc vous voyez qu'on a des adaptations. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est qu'au moment où la technologie s'insère, elle se fait attaquée ou agressée par la physique qui veut également s'emparer de l'école moyenne. Et cette aventure des travaux scientifiques expérimentaux va s'arrêter en 1968, et en 1968, il va y avoir donc des sciences d'observation, essentiellement de SVT, en 6e et en 5e, et 2 ans après, en quelque sorte, technologie, donc pour les mêmes élèves, technologie physique en 4e, 3e, et qui s'avère en fait essentiellement une analyse phénoménologique des mécanismes, avec un peu de chimie également. Donc, dans une certaine mesure, cette histoire-là montre l'échec de l'insertion de l'enseignement technique à ce moment-là. C'est-à-dire que la technologie n'a pas le même format. En plus, pour installer une discipline, c'est quand même pas simple. Quand vous n'avez pas de prof, pas d'équipement, pas d'inspecteur, c'est quand même un sacré défi. Alors que les autres en ont. Et c'est un des motifs pour lesquels la technologie n'arrive pas à s'insérer, et parce qu'elle est disqualifiée. On dit dès 1962 qu'elle a une odeur de cambouis. Et pour l'installer, l'inspecteur général Géminard en fait une discipline d'amphithéâtre pour qu'elle ne soit pas une discipline d'atelier. Et vous voyez donc le poids en fait des clivages et des hésitations qui font que la coexistence parfois est difficile. Je rappelle la position de Langevin, publiée en 1931. L'interruption actuelle de l'enseignement expérimental entre 12 et 15 ans est absurde. Il faut commencer beaucoup plus tôt l'enseignement physico-chimique par des travaux pratiques prolongeant les leçons de choses. Donc vous voyez ce qui est dit, c'est simple. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de physique et de chimie entre l'école élémentaire et le lycée. Et donc, il faudrait bien qu'on puisse réunir tout ça. Et cette phrase-là est citée dans la préface de la plupart des manuels et même dans les instructions officielles où il est fait référence à Langevin qui était, je vous le rappelle, qui a présidé la commission Langevin-Vallon, qui est à la base, en quelque sorte, ou en fondement, en quelque sorte, de toute la réforme des années 60. Et toutes les années 1970 sont en fait des années terribles. Enfin, je pense que c'est terrible, parce que ça devait quand même cogner dur. Cogner dur, puisque même dans le monde, les technologues étaient... la technologie était désignée comme du bricolage et du formalisme. Et dans une certaine mesure, on a ici, donc là je rappelle quelques dates, mais c'est pas important, on a une tentative à partir de 1971, une tentative d'intégration, qui sont les travaux de la commission Lagarrigue. Les travaux de la commission Lagarrigue sont extrêmement importants, j'y reviendrai, parce que on veut aborder les sciences et techniques d'une façon intégrée. C'est l'enseignement, l'initiation scientifique et technique qui est suggérée à partir de thèmes. On prend des thèmes et on les exploite du point de vue de la physique et de la technique. C'est le cas de la photographie, c'est le cas des automatismes, c'est le cas de l'électronique. C'est le cas des matières plastiques. Et puis, il va y avoir autour de cela des travaux à l'INRP également sur l'éveil scientifique et technologique à l'école élémentaire. Donc, on a tout un environnement qui est particulièrement porteur. Mais il y a plusieurs éléments extrêmement importants. Au sein de cette commission Lagarrigue, Qui constitue la commission Lagarrigue? Ce que Isabelle Arlet désigne par les grands corps d'État. Les grands corps d'État, ce sont les polytechniciens, les normaliens, des académiciens éventuellement, des grands représentants des corps d'État. Et De l'autre côté, il y a les ingénieurs arts et métiers que représente notamment Géminard. Et il y a une querelle très forte entre les deux et une disproportion. Et au cours de ces travaux, les analyses des discours tendent à montrer qu'il y a une espèce d'alliance qui se crée entre les associations professionnelles, l'UDP en particulier, et l'Union des naturalistes, puisque les naturalistes se sont conviés pour définir ce qu'il deviendra bientôt les sciences expérimentales. C'est-à-dire que les SVT qui n'ont pas eu leur commission, comme la physique ou comme les mathématiques, se raccordent en quelque sorte à la situation qui est proposée. Ce que je suis en train de dire là, c'est, j'essaie d'expliquer en quelque sorte pourquoi on arrive à sciences expérimentales en 1975. Et il faut avoir également à l'esprit, pour tout comprendre, qu'il y a en 1971 la loi sur l'apprentissage et sur l'enseignement technologique qui, dans une certaine mesure, définit clairement la distinction entre le technologique et le professionnel. C'est-à-dire que l'enseignement technique, à partir de 1971, est distinct entre l'enseignement professionnel et l'enseignement technologique. Et dans une certaine mesure, on va avoir deux types de technologies. Une technologie expérimentale, qui est une technologie scientifique, c'est l'analyse fonctionnelle que proposait Géminard, c'est-à-dire je prends des objets et j'essaie de comprendre leur fonctionnement, et j'essaie éventuellement avec des modèles concrets, et puis, de l'autre côté, je vais avoir une technologie professionnelle, une technologie professionnelle qui va préparer en quelque sorte les métiers, et en particulier les BEP qui ont été installés en 1966, hein, qui sont le même niveau de qualification que les CAP, mais qui jouent plus de polyvalence. Et ben vous voyez que là on a pratiquement la configuration qui apparaît, une configuration assez simple, d'autant qu'il faut rajouter un élément pour bien comprendre l'ensemble, c'est la position de Piaget. L'une des questions qui préoccupe le plus les autorités scolaires et universitaires de différents pays étant le nombre trop faible des vocations scientifiques par rapport au nombre proportionnellement trop considérable de lycées et d'étudiants qui s'orientent vers les carrières littéraires, il est évident que c'est là un des problèmes centraux que l'éducation de demain est appelée à résoudre. C'est assez contemporain cette affaire-là. Hein ? Cette refonte met essentiellement en cause non seulement la didactique spécialisée de chacune des branches de cet enseignement scientifique, mais une série de questions plus générales telles que celle de la signification réelle des méthodes actives et celle du caractère interdisciplinaire nécessaire des initiations, et cela à tous les niveaux par opposition au morcellement qui sévit encore de façon si courante à l'université comme au niveau secondaire. Donc vous voyez, c'est un texte d'une actualité étonnante, puisque tout est dit. La critique des méthodes actives, puisque les méthodes actives sont critiquées parce qu'elles se confondent à de l'activisme, les enfants s'agitent mais ils n'apprennent rien. Hein, on a déjà entendu dans le rapport un rapport de l'inspection générale sur la main à la pâte, il était mentionné cette dérive méthodologique en quelque sorte où les enfants s'agitent mais n'apprennent rien. Ce qui est dit, c'est qu'il faut que ce soit interdisciplinaire, donc on va y arriver. Et dans une certaine mesure, je représente ici comment ça s'est construit. Eh bien, d'une façon assez simple, je ne l'avais pas évoqué, mais il y a les travaux manuels éducatifs qui sont nés en 1953 pour diverses raisons. Et qui était un peu décoratif. Ça va être très vite exclu vers les arts. Et donc, il y a les objets fabriqués. Et au niveau des années 60, ce qui va cristalliser, c'est l'étude de mécanisme qui va rejoindre en quelque sorte les TSE et les TME. Et l'étude du milieu, dans ses origines avant-guerre déjà, j'ai mis biologie, mais ça devrait être là, ça a glissé. Biologie, géologie, enfin sciences de la vie, selon les étiquetages. Et on a, en quelque sorte, les arts, les travaux manuels éducatifs, la technologie, la physique. Et on va avoir une réunion entre EMT et sciences expérimentales qui va être imposée par la réforme ABI. La réforme ABI installe en fait ces deux disciplines. C'est une des innovations majeures. La réforme ABI clôt les tensions entre et les revendications des physiciens en installant des sciences physiques et chimiques de la 6e à la 3e. Et en parallèle, donc les sciences de la vie continuent leur petit bonhomme de chemin, hein, tout se passe à peu près bien. Et en parallèle, l'éducation manuelle et technique. Et là, c'est relativement clair. Sciences expérimentales a une fonction particulière, je vais y revenir, l'EMT en a une autre. Et on a la technologie dans le plan de modernisation, dans le texte d'ABI, c'est relativement clair. Ce qui est de la technologie expérimentale pour les IUT, ça doit être pris en charge par les physiciens. Ce qui est de la technologie professionnelle, ça doit être pris par les professeurs d'éducation manuelle et technique. Et en même temps, vous voyez qu'il y a un clivage de public scolaire, puisqu'il ne s'agit pas des mêmes élèves. En réalité, la technologie ne sera jamais enseignée. Elle sera du côté professionnel, mais du côté scientifique, elle ne le sera pas, puisque on s'en défend largement. Je vais vous citer quelques texte du début des années 70. Ce sont des physiciens. La technologie prépare un terrain sur lequel pourra se développer la physique en seconde. Donc vous voyez que le projet, c'est la seconde. La technologie constitue une préparation à la physique avec l'énorme avantage de posséder son propre moyen d'expression, l'expression graphique. Et dans un arrêté du 17 mars 1977, une phrase éloquente à propos des sciences physiques. Les programmes proscrivent donc tout débordement superflu sur les disciplines voisines telles que mathématiques, activités manuelles et techniques. Donc faut surtout pas aller voir ailleurs. Et ça répond exclusivement à la distinction forte faite en 1977 où on va retrouver les fonctions et les visées de deux enseignements complètement différents. L'éducation manuelle et technique a pour premier objectif d'amener l'enfant puis l'adolescent à appréhender son environnement technologique et par conséquent à le préparer à la vie pratique, éventuellement à l'apprentissage ultérieur d'un métier. Donc on voit bien, c'est la découverte professionnelle d'aujourd'hui. La formation secondaire se doit d'initier au plus haut niveau possible tous les élèves d'une manière progressive et continue au savoir scientifique, aux réalisations techniques et aux recherches contemporaines dans le domaine des sciences et des techniques. Donc on voit bien ce qui relève des sciences expérimentales, ce qui relève de l'EMT, et on a, en quelque sorte, une distinction. Les deux enseignements peuvent exister parce qu'ils sont différents et répondent à des missions différentes, et on a deux autres enseignements qui se rapprochent. Ce sont les sciences expérimentales à la fois sur le vivant et les phénomènes. Pour poursuivre cette aventure-là, je crois qu'il est important de faire le point sur cette disciplinarisation, cette mise en forme des disciplines scolaires et ce que j'ai appelé la construction des forteresses disciplinaires, pour reprendre la désignation de Dominique Rollin. En fait, une discipline, c'est quoi? C'est quelque chose qui est construit verticalement. Si possible, de la petite section jusqu'aux classes préparatoires et à l'université. Sinon, une discipline n'a pas les traits d'un enseignement secondaire. En même temps, il y a la nécessité d'une certification des professeurs. Il faut une qualification. Et la disparition des PEGC au début des années 80 montre bien ce phénomène de disciplinarisation, puisque la bivalence va être écartée. En même temps, il y a un conformisme ou une conformation. C'est-à-dire toutes les disciplines doivent avoir une agrégation et doivent avoir un CAPES. Ça se passera pour la technologie à partir de 1988. Donc, puisque la technologie a pour intérêt de voir en un temps relativement court toute l'évolution des autres qui était antérieure. Il y a une hiérarchisation, il y a une concurrence, et dans la distinction technologique et professionnelle. Tout se passe dans les années 80-90, à partir du gouvernement Belac, où on va avoir une modification très forte et donc un positionnement. Pour la technologie, c'est en fait le premier essai de CAPET en 1980 et la prise en charge, en quelque sorte, par l'inspection générale sciences et techniques industrielles. À partir de ce moment-là, et on va voir jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, cette construction verticale. Alors, les années 80, oui, j'y étais, il y a plein d'événements. Hein. Les élèves, 80% au niveau bac, sous chevènement. La désignation des LEGT, lycées d'enseignement général et technologique, par rapport au lycée professionnel, et on voit bien que il y a le technologique qui est dans l'enseignement secondaire et le lycée professionnel qui reste du côté de l'enseignement technique. Les classes préparatoires aux grandes écoles aussi qui s'articulent, hein, qui contribuent à cela, et c'est cette structuration verticale. Puis il y a plein d'incidents. Il y a plein d'incidents qui apparaissent. Plein d'incidents qui apparaissent au début des années 90, mais je vais y revenir, et puis la suppression donc des PEGC à partir de 1986. Donc en gros, une disciplinarisation, le phénomène de disciplinarisation, c'est relativement simple, c'est la construction de blocs verticaux, et avec des contenus organisés d'une façon linéaire, de petites classes jusqu'aux plus grandes. Et si possible, pour des élèves qui vont pouvoir gravir cet épisode. Et pour qu'elles existent, il faut qu'elles soient différentes des autres. Et pour qu'elles soient différentes, en particulier, il faut qu'elles soient sélectives. Alors ça, ce sont les sociologues qui l'ont bien mis en évidence. C'est-à-dire une discipline, meilleure allée, plus grande est la sélection qu'elle opère. Et dans une certaine mesure, là j'ai représenté mes pavés avec des hauteurs différentes, il y a un modèle qui s'installe progressivement, ce sont les mathématiques, hein, dès la commission Lichnerowicz, dès l'installation des IREM, et pour qu'une discipline soit encore plus forte, il faut qu'il y ait des chercheurs en didactique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de didactique de la discipline, c'est nul. Alors c'est assez amusant, puisqu'on voit apparaître dans les disciplines qui revendiquent d'être dans les enseignements qui revendiquent d'être des vraies disciplines, des didactiques. Je pense à la documentation qui a un enseignant-chercheur spécialiste de la didactique de la documentation. C'est vrai également sur la didactique de l'informatique. Hein, pour imposer l'informatique, on a besoin d'une didactique. Donc, là, c'est de la méta-analyse, parce que moi, je suis didacticien de la technologie, en quelque sorte, je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis, mais je crois que ça participe à cet événement-là. C'est-à-dire, si le premier DEA de didactique des sciences et de la technologie, ou didactique des sciences, à Paris 7, c'est en 1974, tiens, ça tombe juste en même temps que la réforme ABI qui installe ces sciences expérimentales et cette technologie, et cette EMT. Mais ça va pas. Si on a ces pavés comme ça, ça va devenir électrique pour les élèves et pour les profs. Donc, on met un peu d'assouplissement. Et ça va être des travaux interdisciplinaires de tout genre. Parce que depuis la constitution de ces disciplines, eh bien, on introduit que ce soit les 10%, que ce soit le travail indépendant, que ce soit, etc., on introduit l'équivalent, en quelque sorte, de 10% du temps pour amener des assouplissements. Ces assouplissements, je le répète, sont nécessaires pour les enseignants innovants, parce qu'il y a du personnel innovant qui a besoin de s'exprimer, donc c'est là où il va le faire. On a besoin de synergie dans les établissements, puisqu'on constate partout que dans toutes les enquêtes, ce sont surtout des regroupements de type affinitaire, donc ça permet une vie sociale au sein de l'établissement, et c'est indispensable pour les élèves également, puisque les élèves vont révéler des compétences qu'ils ne révèlent pas dans des activités strictement disciplinaires. Donc, d'une façon schématique, il y a discipline s'il y a didactique et s'il y a assouplissement et donc interdisciplinarité. D'où l'aberration qui apparaît dans les années 80 quand on parle d'interdisciplinarité à l'école. Puisque pour parler d'interdisciplinarité à l'école, encore faudrait-il que les disciplines existent. Or, très précisément, elles n'existent pas. Donc, mais le mot marque fort l'époque, et tout est interdisciplinaire, accusant en quelque sorte cette structuration verticale. À l'école, c'est renforcé, notamment par les professeurs d'école normale, qui représentent des disciplines et qui forment les enseignants. Donc, on est sur des contradictions permanentes. On dit qu'il n'y a pas de discipline à l'école élémentaire, mais en même temps, on forme les gens à des disciplines. Du secondaire. Dans la formation des maîtres en UFM, c'est parfois, ou dans les universités, comme on doit dire désormais, c'est parfois encore la même chose. Donc il y a un certain nombre de tensions. Et ce processus de disciplinarisation, pour moi, il est, en fait, en reprenant la distinction d'Alistair Ross, Alistair Ross distingue trois façons de piloter les curriculums. Où on met des listes de connaissances, à la façon de programme. Où on met des compétences, un référentiel de compétences, à la façon de l'enseignement professionnel. Où on met une série d'expériences à vivre, à la façon des travaux scientifiques expérimentaux, par exemple, ou à la façon de la pédagogie de Dewey. Et pour moi, le processus de disciplinarisation est un processus extrêmement simple qui consiste à réduire l'assiette des enjeux éducatifs sur l'axe de la des connaissances. Alors, je n'arrive pas à animer ce... Mais dans une certaine mesure, il y a discipline lorsque je réduis le positionnement sur ce plan-là. Et il y a dédisciplinarisation, par conséquent, lorsqu'on réétend les compétences, le champ des compétences et de l'expérience. Ce schéma est un outil qui permet assez facilement d'analyser les choses, parce que quand il y a des procédures de validation des acquis de l'expérience, les procédures de validation des acquis de l'expérience, c'est très précisément de passer des expériences et des compétences à leur formalisation. Et on est sur une procédure très inductive. Et en gros, je vais caricaturer, là c'est l'enseignement secondaire. L'axe des connaissances, c'est ce qui était défini depuis le 19e siècle comme l'axe des connaissances. Et ici, on est plutôt sur le plan de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique. Et le modèle ou le choix de l'enseignement secondaire comme format du collège au cours de l'histoire fait que on a en quelque sorte cette focalisation sur les connaissances. Et ce qui relève des compétences et des expériences, eh bien, c'est pour le troisième tiers des élèves, ceux qui sont en difficulté. C'est pour ça qu'on va avoir des activités concrètes, etc., qui vont légitimer en quelque sorte d'être sur ces activités-là. Alors cette structuration verticale, vous n'y verrez rien. Vous n'y verrez rien, mais c'est une thèse, c'est la thèse de Christian Hamon actuellement en cours, qui repère tous les mouvements depuis 1945 concernant l'enseignement technique pour montrer la correspondance entre les classes préparatoires et l'enseignement au collège, voire à l'école élémentaire. Et aujourd'hui, les premières images que je vous ai fait voir sur l'énergie, c'est quelque chose qui s'enseigne en seconde, en première, en terminale, en classe préparatoire, et qui est nécessaire pour le concours général également, et qui s'enseigne, qui s'initie dès la sixième. Donc on a bien la structuration verticale qui est liée à un certain nombre de pressions et de revendications, puisque il n'en a fallu pas grand-chose pour que la technologie soit en quelque sorte exclue après les interventions d'un ministre qui avait caricaturé les activités à une agrafeuse, si vous avez gardé quelques souvenirs de ces années 90. Et dans ces assouplissements, alors il y a par exemple les itinéraires de découverte ou les travaux personnels encadrés, et qui sont, dans une recherche antérieure, nous avions essayé de modéliser cette affaire-là. Alors, c'est l'orientation d'un projet où il faut produire quelque chose et apprendre en faisant. Et se pose la question centrale qui est de l'articulation avec l'enseignement ordinaire. C'est-à-dire comment on articule une mesure d'assouplissement avec l'enseignement ordinaire. S'agit-il d'une récréation, d'un détour ou d'une autre façon d'apprendre à certains moments? Et ça donne en fait plusieurs coexistences. Il peut y avoir des dispositifs interdisciplinaires complètement juxtaposés, sans lien. Il peut y avoir des dispositifs interdisciplinaires qui sont intégrés, c'est-à-dire que une partie des programmes des enseignements sont assurés par ce dispositif-là. Et puis, bien évidemment, il y a tous les éléments intermédiaires où le dispositif va susciter des questionnements, par exemple ici sur la respiration, et qui vont être développés, ou sur l'EPS, et qui va être développé dans chacune des disciplines. Donc, toutes les possibilités de coexistence sont représentées. C'est un schéma que nous avions élaboré à partir de l'analyse de différents dispositifs mis en œuvre et que nous avons utilisé pour la formation. C'est-à-dire que pour que les gens d'une équipe interviennent et conçoivent et régulent leurs dispositifs, nous leur avions proposé ce schéma-là où ils devaient renseigner en fait les concordances ou les coordinations qu'ils assuraient et celles qu'ils n'assuraient pas. Donc c'est cette question de coexistence, de cohérence fondatrice de ces dispositifs et cette cohérence coordinatrice. Et en quelque sorte, cette coordination, c'est la coordination de deux aspects importants qui sont, pour reprendre le schéma précédent, des activités qui ont des tâches qui renvoient à des connaissances en référence, c'est-à-dire le concept d'énergie ou des analyses vont renvoyer en fait à des connaissances scientifiques ou bien à des contextes et des situations. Et on a cette articulation très forte qui est difficile à imaginer parfois et qui en fait articule connaissance, compétence et expérience. Alors ces ruptures et ces continuités signalées auparavant, ici c'est une illustration ancienne sur ce qu'on aimerait bien faire ou ce que les enfants ou les élèves aimeraient bien faire, mais les limites qui sont liées à l'école, ici à propos des avions supersoniques. Ce que je veux dire là, c'est que on est dans la configuration équivalente aux années 60. On a une européanisation et une mondialisation. La nouveauté, c'est la qualité des politiques éducatives qui est évaluée par un certain nombre d'outils. Il y a le socle commun et il y a rénovation de l'éducation scientifique et technologique, ce qui amène la refondation des disciplines et des curriculums, mais en même temps, comme je l'avais dit tout à l'heure, la contestation des disciplines. L'évolution du milieu technoscientifique, complexité fonctionnelle, simplicité structurelle, des objets, les nanomachines, etc., ça paraît complètement dépassé aujourd'hui d'imaginer des activités intégrées à propos de piler ampoule. Ce qui est important aujourd'hui, ou ce qui justifierait une intégration, c'est de s'interroger à la technologie RFID. Vous interrogez un gamin, un parisien, enfin tous les enfants parisiens, aucun d'entre eux n'a une idée de comment fonctionne la carte Navigo. Donc si l'électricité pile et ampoule se justifie en 1960 ou 70, lorsqu'on a généralisé l'électricité domestique, en 2010, ça fait curieux quand même de rappeler ces choses-là, surtout que parfois on utilise encore des lampes à incandescence alors qu'elles sont interdites sur le marché. Donc on est dans des contradictions totales. Comment ? Dans les haut-parleurs ? Des lampes pour éclairer les haut-parleurs ? Pas tout à fait la même. Non, mais il y a des amplis. Ah, des amplis à lampes. Oui, mais ça n'a pas la même fonction que des lampes à incandescence, puisque le rayonnement. Enfin, donc, ce que je veux dire par là, c'est que le milieu change. Comment sont pris quand on s'intéresse essentiellement à l'intégration, on est, et en particulier, ça sera développé par Marilyn, on est sur investigation. Donc on fait rouler l'investigation. Oui, mais investigation sur quoi? Je répète, ça n'a pas de sens à mon... Et là, j'en assume la responsabilité de travailler sur pile en poule en 2010, alors que on apprend que la conductibilité fonctionne dans un certain sens, alors que les semi-conducteurs posent d'énormes problèmes. Les technologies Wi-Fi, les technologies RFID, les technologies autres méritent sans doute une investigation pour les mêmes enjeux qu'autrefois, c'est-à-dire l'appropriation par les jeunes du monde dans lequel ils vivent. Avec les problèmes nouveaux qui sont le décrochage scolaire, l'impact de la culture scolaire et la distinction de la culture juvénile, la nécessité de l'actualisation des contenus et les enjeux de la scolarisation. Donc on attend le même leitmotiv que dans les années 70, c'est encore mes références culturelles, il faut changer l'enseignement et on va retrouver exactement les mêmes discours avec ces oppositions très fortes entre connaissances, compétences et expérience, entre leçons, actions éducatives et objectifs, en quelque sorte, avec l'opposition surtout entre sujet apprenant et auteur agissant. Je crois que c'est la distinction la plus importante, puisque le sujet apprenant va être dans un processus médié, aidé, etc., et l'auteur agissant étant plutôt... laisser à son acte même d'agir pour apprendre. Ce sont les résistances qui sont connues internationalement à propos des actions éducatives, sur l'opposition entre agent et auteur et transmission-construction, et dans une certaine mesure, l'enseignement secondaire est fondé traditionnellement sur le rapport entre agent et transmission, c'est-à-dire celui-ci. Et donc il y a ce basculement nécessaire, certainement, alors que l'enseignement technologique et professionnel est beaucoup plus centré sur l'auteur et la construction, et peut-être que c'est un modèle à étudier et à suivre. La rupture des compétences également, alors il y a une confusion en France sur compétences, je crois qu'au Québec c'est en train de se lever, en tant que compétence égale savoir agir. Et les caractéristiques que propose le gendre me paraissent tout à fait pertinentes. J'y reviendrai si ça vous intéresse, parce que je dépasse le temps qui m'était imparti, je crains. Et je crois que cette rupture curriculaire aujourd'hui, elle est sur ces trois axes, toujours les mêmes, entre structuration des connaissances, processus d'acquisition et évaluation. Et l'approche, les ambiguïtés de l'approche par compétences en France sont sur l'ambiguïté de ce que l'on fait des compétences. Est-ce qu'on entre avec ça ou est-ce qu'on sort avec cela? Et je crois que si on considère que le processus est centré sur les expériences, que la structuration des connaissances relève de leçons et que l'évaluation relève d'une approche par compétences, alors la clarification est assurée. Et pour terminer en quelque sorte, nous sommes en 2008 avec la fin de la configuration que j'avais présentée tout à l'heure. Technologie et sciences expérimentales se rassemblent, sciences expérimentales et technologies. Il y a les mathématiques qui sont encore un peu dans la même vague, mais qui restent un peu plus à part. Et en fait, il me semble que si l'on veut travailler ou penser la question de l'intégration, il faut surtout penser la question de la dédisciplinarisation. Et si on a une association, alors il faut se poser la question des références, puisqu'aujourd'hui l'association fait que l'on a des tâches pilotées par investigation, avec des visées qui sont l'éducation citoyenne, l'orientation vers les filières scientifiques, les connaissances mobilisables, mais sur les références, on ne sait pas trop. Les références varient, s'agit-il de connaissances, s'agit-il de pratiques sociales, en partie de la vie quotidienne, et là il y a des ambiguïtés. C'est très net, par exemple, avec la question de matière et matériaux. Matière, ça a un sens en physique. Matériaux, ça a un sens en technologie. Et on enseigne autour de matière des trucs qui relèvent du génie des matériaux. Donc, on est relativement embarrassé. En gros, est-ce qu'on prend la référence de l'ingénieur? Est-ce qu'on prend la référence du biotechnicien? Est-ce qu'on prend la référence du savant? Autre possibilité, c'est qu'on rassemble on rassemble les quatre disciplines dans un bloc. C'est ce qui se fait. C'est un bloc. Et puis, on pilote l'ensemble par les piliers. Et ce sont les piliers, en quelque sorte, qui pilotent les enseignements, ce qui n'est pas le cas en France, et qui conduit donc à l'uniformisation. Et si on est sur ce schéma-là, moi j'ai toujours été étonné, quand on lit les instructions officielles du collège, toutes les disciplines disent qu'elles contribuent à tous les piliers. C'est quand même merveilleux. On aurait pu dire que certaines valorisent un ou deux piliers, que d'autres, non mais là, toutes. C'est-à-dire que je veux le beurre et l'argent du beurre, les disciplines, et je veux également le croisement par piliers. Donc on arrive à quelque chose qui devient complètement inopérationnel, opérationnalisable, puisque si on entre par les disciplines, on ne peut plus rentrer par les piliers. Si on entre par les piliers, on ne peut plus rentrer par les disciplines. Donc il y a un jeu complexe là qui n'est pas clair. Alors on invente des solutions de souplesse. C'est les convergences. C'est-à-dire qu'on maintient des disciplines, puis on dit, tiens, on va mettre ces mesures d'assouplissement et ce serait les convergences, qui sont en gros les thèmes transversaux de 1983 avec quelques évolutions comme la climatologie ou les statistiques qui viennent là, mais qui sont en quelque sorte les éléments permettant de maintenir les disciplines dans leur progression linéaire. C'est-à-dire, s'il y a discipline, il y a un enseignement linéaire, des progressions linéaires, et donc on est obligé de partir, on est obligé d'avoir des activités thématiques qui viennent assouplir la rigidité. Et enfin, on pourrait avoir l'autre solution qui est des thèmes avec des horizons disciplinaires. C'était les choix de la commission Lagarigue, où on abordait plein de thèmes, ou plein de projets, et puis on structurait les connaissances à partir de ces acquisitions, et en essayant de maintenir la spécificité des approches disciplinaires. Donc il y a plein de solutions possibles ou potentielles qui sont à envisager. En gros, les choix donc portent sur, à mon sens, sur les leçons exercices, les situations problèmes et les projets. Il me semble que dans l'histoire récente, on a bien développé les leçons exercices, bien les situations problèmes, les projets n'ont pas encore été vraiment développés. Néanmoins, ce que l'on voit d'une façon nette, c'est que on est passé progressivement de l'axe leçon-exercice au plan situation-problème et projet. Donc on est en cours d'évolution, néanmoins, la dédisciplinarisation n'est pas réglée. Alors, pour terminer, une récapitulation de ces configurations, très simple, 5 périodes, 1942-1962, on a besoin de reconstruire la France. On va avoir des travaux manuels et des travaux ménagers et un enseignement technique avec des sciences appliquées et des sciences naturelles. 1962-1975, ce dont on a besoin, ce sont des ingénieurs et des scientifiques. On va réinventer les travaux manuels, les travaux manuels, j'ai pas beaucoup de place, hein, les TSE, etc., et la technologie, et on va maintenir une technologie professionnelle et une technologie expérimentale. Et on va commencer à avoir les disciplines poindre avec physique, chimie et sciences naturelles. En 1975-1985, ce dont on a besoin, avec la crise du pétrole, on a surtout besoin d'une main d'œuvre non qualifiée. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, Abi voulait limiter le nombre de candidats au baccalauréat pour pas qu'il y ait une surqualification des élèves, susceptible d'engendrer d'ailleurs des manifestations très vives de la jeunesse. Donc on installe l'éducation manuelle et technique et on isole sciences expérimentales. En 85-2000, besoin de nouvelles compétences technologiques, donc l'éducation manuelle et technique change avec l'étiquetage technologie, et ça va aussi au lycée, puisqu'on va avoir les technologies des systèmes automatisés et les classes prépa qui vont s'installer, et sciences expérimentales. Et progressivement, en 2000, on a un besoin, comme dans les années 60, de scientifiques et d'ingénieurs, et on bloque tout en sciences expérimentales avec une démarche uniforme. Voilà un peu, si vous voulez, l'histoire telle que je l'ai reconstruite, avec les problèmes particuliers qui se posent aujourd'hui et qui, à mon sens, méritent d'être pointés, parce que il me semble extrêmement périlleux de vouloir installer des pratiques nouvelles si on ne fait pas état, de la culture, des identités qui sont au cœur des actions d'enseignement de nos collègues. Voilà. Je pense que vous avez peut-être des questions parce que j'ai été peut-être plus long que prévu.
Après, on a deux jours. Enfin, l'idée, c'est, de, voilà, c'est d'alimenter, même après, des apports un peu plus réflexifs à travers les ateliers après. Hein. Non, mais il y a peut-être que quelques réactions, quelques remarques comme ça. De...
Juste une réaction sur cette histoire de compétences, connaissances, capacités. Mmh. Comment, vous, en tant que chercheur, vous voyez cette opposition ? Si moi, je suis dans le système éducation nationale, je dirais que compétence égale capacité, plus connaissance, plus attitude.
Oui.
Et vous, en tant que chercheur, pourquoi vous faites cette différence ?
Entre eux ?
En tant que chercheur.
Oui. Parce que, au plan international, ce qui est valorisé, c'est l'approche par compétence. Et donc l'approche par compétence, le gendre le définit assez bien. C'est un potentiel pour l'action, dont les manifestations sont impossibles, etc. Et qui font effectivement appel à des connaissances, à des capacités et à des attitudes. Mais il y a eu quand même les compétences en France, c'est pas nouveau. Dans l'enseignement technique et professionnel, c'est quelque chose qui est répandu depuis très longtemps. Et c'est pas tout à fait les mêmes mots. Et en plus, il y a des confusions. C'est pour ça que j'essaie il y a des confusions parce que, curieusement, dans l'expression des compétences, on retrouve l'expression des objectifs opérationnels de la pédagogie par objectif. Or, très précisément, l'approche par compétence au plan international, elle s'oppose aux excès, aux dérives plus exactement, de la pédagogie par objectif. Et en particulier la dérive qui était la définition de micro-objectif. Donc, quand on voit des compétences qui sont définies en être capable de, on est bien sur des capacités, mais on est sur des performances. Et on est sur les performances de Magère, de toute la littérature des années 70, sur la pédagogie par objectif. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le système est bloqué. On peut plus faire fonctionner. C'est pour ça que je crois qu'il faut être très très vigilant sur l'histoire des mots, en fait, et le sens qu'ils ont dans l'école. Parce que sinon, on se fait piéger. Oui, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est bien les marques. C'est bien les marques de l'enseignement secondaire depuis le début. Hein, parce que l'enseignement professionnel s'est posé très tôt la question de comment évaluer ce qu'on appelait autrefois des savoir-faire. C'est-à-dire parce que c'est vrai qu'un électricien qui est en train de mettre au point une armoire électrique avec du 500 volts par exemple, je veux dire, c'est assez vite fait de voir s'il est compétent. Hein. Ça colle ou ça colle pas. Voilà, c'est ça. Non mais hein, c'est comme sur la route. Hein, on est compétent ou on l'est pas, mais donc c'est vital. Donc on s'est déjà posé ces questions-là, mais le format de l'enseignement secondaire, qui est un format qui doit distinguer, il est sélectif, le schéma de l'enseignement secondaire en France. Donc par conséquent, il est inadmissible que tous les élèves puissent réussir. Et donc, il faut des notes pour les classer. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on pense que on sait le faire. Et dans l'esprit français, hein, qui est bien de partir de zéro et de remonter, et non pas d'enlever des points du 20 pour repérer. Donc, on a toute une philosophie de l'enseignement secondaire en France qui est dont on a du mal à s'écarter. Il y a quand même, une organisation administrative et sociale, des disciplines qui font que c'est ce modèle-là qui demeure. Il suffit de regarder sur les groupes de patronage des revues professionnelles, que ce soit l'UDP, l'Union des naturalistes ou PageTech. Et ben vous verrez qu'il y a des prix Nobel dans certains et pas dans d'autres.
J'étais, je regardais l'heure, je me demandais peut-être qu'on fera la table ronde au début d'après-midi. Parce que qu'on ait le temps quand, hein, pour être, puisqu'on a, ça permettra de commencer la table ronde avant le, pour avoir le temps quand même de discuter. Par rapport à ce que tu disais, sans doute qu'on en reparlera demain, mais c'est pas qu'on ne sait pas les évaluer, les compétences, parce qu'on peut très bien mettre au point après des systèmes dans lesquels on... Dans compétences, l'idée de complexité, d'articuler à la fois des connaissances, des savoir-faire, d'attitudes, dans des certaines situations. Et donc on pourrait très bien imaginer qu'il y ait, mais c'est le coût. C'est le coût de aussi de l'évaluation. Je prendrai l'exemple des compétences expérimentales au bac, au baccalauréat, qui se sont c'est réduit à des gestes. Et ce ne sont pas des compétences qu'on évalue, ce sont des gestes techniques. Et ça s'annonce compétences, évaluation des compétences expérimentales. Parce que ça coûte cher de valider dans un certain... Donc ce n'est pas qu'on ne le sait pas, je pense que ce n'est pas en termes de ne pas savoir, c'est en termes de est-ce qu'on se donne les moyens, et question de formation aussi.
Oui, enfin, il n'y a pas qu'une question de formation, mais quand on regarde par exemple le concours professeur des écoles de la session 2010, là, la question en mineur, c'est, alors c'est très test PISA, c'est des vaches ont été électrocutées dans une étable. Et il y a l'expression, on considérera que le neutre et la terre ont le même potentiel. Il faut expliquer. Donc ils ont représenté sur les copies des vaches en série, ou en parallèle, enfin... ça c'est une situation qui me paraît typiquement bien évaluer une compétence, c'est-à-dire... alors. Après qu'elle soit adaptée au métier qu'ils envisagent, ça c'est une autre affaire, parce que la plupart des étudiants ont été coincés sur cette phrase le neutre et la terre, on considérera que le neutre et la terre ont le même potentiel, qui n'était pas dans leur jargon. Donc c'est bien, on voit bien qu'on n'est pas dans... C'est un choix de référence là, parce que c'est du génie électrique qui est pris en charge, qui est pris en charge... qui est mis sous tension en tout cas, donc on en a des tests. Moi, je pense que c'est pas compliqué d'en avoir. Et si j'étais très audacieux et plein de courage, je montrais une entreprise et un consortium d'élaboration de tests. Parce que je suis à peu près convaincu qu'on pourrait très bien évaluer l'enseignement, l'éducation scientifique de tout le monde, comme les certificats de langue, comme les C2I, etc., avec des examens qu'on fait passer, etc. Et voilà, plein d'entreprises à créer, la fabrique d'outils d'évaluation et une banque suffisamment large pour permettre, pour répondre à la question des enseignants, qui est on n'a pas les outils. Au plan international, je pense...
Il y a des outils.
Je pense qu'au mouvement, par exemple, Technically Speaking, un mouvement américain soutenu par le monde de l'aéronautique, où ils ont décliné un plan d'études d'initiation technologique et scientifique de la maternelle au lycée avec des compétences d'une pertinence extraordinaire. Je veux dire, c'est un outil merveilleux, ignoré en France, pour arriver à des programmes qui sont plus proches des pays en voie de développement sans doute que ceux des grands États. Mais on est il y a des possibilités et il y a de l'existant. Et il me semble pas que ce soit si compliqué que ça à le mettre en œuvre. Je crois que ça fait partie d'un certain nombre de résistances. De résistance normale, puisque on n'a jamais appris comme ça, donc on n'enseigne pas comme ça non plus. Et puis en même temps, le modèle compétence qui s'installe se rapproche en quelque sorte de l'enseignement technologique et professionnel. Or, je pense que je l'ai suffisamment souligné, il a un statut de minorité. Donc comment des vraies disciplines peuvent-elles s'emparer de ce modèle-là? En Angleterre, quand on a tenté ça, comme la réforme de 1902 en France, on crée une ouverture, 20 ans après on referme. Et on revient sur cette configuration verticale des cathédrales du savoir. C'est un des enjeux de l'histoire des disciplines au CAPES.
En Angleterre, si tu veux, il y a eu le moment dans lequel ils ont mis un module Science Curriculum Investigation, c'est-à-dire qu'ils ont mis, quand ils ont mis le curriculum... nationale. Mmh. Ils ont introduit aussi un module, c'était pas une discipline, hein, c'était un module, Science Curriculum Investigation, qui était que sur l'investigation. Mmh. Mais du coup, il y a eu une contrepartie, c'est que du coup, l'investigation est sortie des disciplines. Bien sûr. C'est-à-dire que du coup, tout était mis. Donc, il y avait des explorations de milieux, il y avait des projets qui étaient que dans le SCI, qui étaient validés en tant que tels, qui étaient évalués et validés. Mais la contrepartie, c'est que ça a disparu de la physique, de la biologie, etc. Donc, il y a toujours des contre. Là, c'était pour une volonté d'évaluer en lui-même et de valider l'investigation. Donc, ils ont créé un module. Ils créent un module, c'est sorti des enseignements disciplinaires classiques.
Oui, mais comme tous les dispositifs interdisciplinaires, en quelque sorte. Parce que c'est interdisciplinaire. Les TSE, c'est pareil. Pourquoi ça n'a pas survécu? Bon, parce que son fondateur est mort. Donc ça, c'est souvent... Roger Gall est mort en 66. Après, on n'a entendu plus parler vraiment des TSE. Mais c'est parce que, à l'origine, c'était fait pour observer les enfants et voir ceux qui avaient l'esprit scientifique, et donc les orienter plutôt vers la voie moderne. Donc c'était ça leur fonction. À partir du moment où ça n'a pas de fonction, à quoi ça sert de penser investigation? Si ça n'a pas vraiment de fonction, ça ne tient plus. Hein, tous les enseignements, toutes les actions éducatives qui n'ont pas de fonction, ou qui sont contestées, ça s'écroule. De l'intérieur ou de l'extérieur. L'enseignement anti-alcoolique, c'est très net. L'enseignement anti-alcoolique, ça tient 2 ans. Puisque ça n'est pas légitime aux yeux, non pas de l'État et du ministère de la Santé, mais aux yeux de la puissance publique, et en particulier des distributeurs. Si bien qu'aujourd'hui encore, même dans les classes prépa, les petits-enfants picolent et se ruinent la santé.